Jean 15. Et quand Jésus dit, donc, levez-vous et partons d'ici, ils ont levé, arrangé leurs affaires, sortez de la ville aussi, parce que la ville est quand même une ville où il y a plein d'excitation, c'est le commencement de Pâques. Donc c'est une ville assez vivante, Jérusalem, c'est quand même l'endroit où il faut y aller. Peut-être justement c'est pour ça que Jésus voulait qu'ils sortent, pour passer du temps, de qualité avec ses disciples avant la fin. Et il y a deux possibilités. Soit ils ont descendu la colline pour sortir sur la porte qui donne vers la vallée, pour remonter la vallée qui donne vers Gethsemane. Et on nous dit que à l'époque, dans la vallée, peut-être qu'il y avait même des vignes. Une autre possibilité, c'est qu'ils partent et ils allongent le mur du temple avant de sortir de la ville. Et il se trouve que sur les portiques du temple, de la grande entrée, on va dans le temple, il y avait interlacés dans les barreaux des vignes. Et c'est une grande possibilité parce que en psaume 80, nous lisons une chose assez intéressante concernant Israël. Et c'est psaume 80, verset 9. Nous lisons, « Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, et tu as chassé des nations, et tu l'as plantée. Et tu as fait place nette devant elle, elle a enfoncé ses racines et rempli le pays. » En parlant justement d'Israël. Plus loin, en Ésaïe 5, le Seigneur reprend l'idée d'Israël en tant que vigne. Et nous lisons ceci en Ésaïe 5, verset 1. « Or donc, je chanterai à mon ami le chant de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon ami avait une vigne sur un coteau fertile. Il la défonça, ôta les pierres et y planta un cépage délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle, il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait des raisins. Mais elle a produit des fruits infects. Or donc, maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand je l'ai espéré qu'elle produirait des raisins, a-t-elle produit des fruits infects ?» Et puis ça continue. L'image est reprise en Jérémie. En fait, c'est une image qui revient souvent. Et comme il y avait les autres plantes ou fruits qui ont décoré le temple et ses murs, tels que les grenadines, ce ne serait pas surprenant de voir justement des vignes. Et donc, si justement Jésus entreprend ce chemin, il contourne donc le temple et puis il descend dans la vallée qui serait une trajet plus direct vers Gethsemane. C'est lui donc qui dit, verset 1, « Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il retranche. » Et tout sarment qui porte du fruit, il est monde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Moi, je suis le vrai cep. Le vrai cep, il dit. Comme il se place toujours à l'origine de toute chose, c'est lui, même avant, l'origine de la foi. Il est l'auteur de la foi. On se rappelle, même avant la nation d'Israël, il y avait Abraham. Et Dieu a appelé Abraham de son lieu de résidence et il appelle à demeurer dans le pays. C'est Dieu, finalement, qui justifie Abraham, qui lui donne la justice de Dieu parce qu'il croit seulement dans les promesses de Dieu. Encore, nous voyons, Jésus est à l'origine de toutes ces choses. Jésus est l'origine, comme il est la parole de Dieu. Il est ce cep d'où vient tout. Et mon Père est le vigneron. Il dit tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il émonde, afin qu'il porte plus de fruit. Et justement, ça donne, je crois, une image plus claire de ce qui viendra finalement avec tous ces chefs religieux qui étaient effectivement dans la vigne, qui l'ont rejeté, donc qui n'ont pas porté du fruit, qui n'ont pas répondu à l'appel du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui produit en nous, justement, des fruits comme l'amour, la paix, la joie. Mais si on ne croit même pas au Messie de Dieu, impossible de porter du fruit, évidemment. Et nous voyons qu'ils étaient retranchés. Aussi, nous voyons que cette phrase, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas du fruit, il le retranche. Plus tard, notamment après la réforme, les réformateurs ont regardé ce verset et notamment Calvin et tout ce qu'il a écrit après. Et puis, il, à cause de la doctrine de la persévérance des saints, c'est-à-dire que si quelqu'un est sauvé, il est sauvé, et que personne ne peut retrancher la personne de la main de Dieu. Et donc, ils ont expliqué ce verset ainsi, en disant que, en fait, ceux qui sont retranchés, plus loin, nous allons lire que ceux des serments qui sont brûlés sont en effet des croyants ou des faux croyants, des gens qui n'étaient jamais réellement sauvés. Et je serais content de garder ce point de vue, parce que c'est assez logique, et ça explique les choses s'il n'y avait pas ces deux petits mots très embêtants en moi. Nous parlons des serments qui sont en Christ. Et s'ils sont en Christ, là, il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? S'ils sont en Christ, qu'est-ce que ça veut dire être en Christ? Si ce n'est être né de nouveau, avoir goûté à la bonté de Dieu, être effectivement en lui, mais qui ne porte pas du fruit, du retranche. Nous lisons en 1 Corinthiens 11 concernant ceux qui prennent la Sainte Cène en vaine, que ces gens-là tombent malades. Paul, il dit que c'est pour ça, justement, qu'il y a des malades parmi vous. Parce qu'ils ne respectent pas le repas du Seigneur. Nous lisons en Actes chapitre 5, l'histoire de Ananias et Saphira. Deux personnes qui étaient dans l'église, et finalement, ont été retranchées. Alors la question vient, est-ce que ces gens étaient réellement sauvés ou pas? Mais je crois qu'une meilleure question est une question que Paul a posée à la fin de 2 Corinthiens. Et c'est en 2 Corinthiens, verset 5 de chapitre 13, donc 2 Corinthiens 13, 5, où Paul dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que l'épreuve ne soit pour vous un échec. Et je crois que c'est là la chose importante. Jésus nous a demandé, certes, de discerner les fruits. On connaîtra un arbre par le fruit qu'il porte. Mais Jésus, il nous parle de porter du fruit et de demeurer en lui. Mais nous lisons, comme Paul dit, examinez-nous vous-même ou assurez-vous de votre salut. On n'est pas exhorté à assurer le salut des autres. Et je crois que souvent on se trompe en devenant trop critique sur le salut des autres. Je crois que la chose la plus importante pour nous de faire dans cette vie est d'assurer que nous sommes dans la bonne voie. Et justement, pour citer Chuck Smith, ce n'est pas trop une question est-ce que un tel ou un autre est sauvé ou pas? La question est-ce que je demeure dans la vigne, le cep? Est-ce que je suis attaché? Est-ce que je porte du fruit? C'est ça ce qu'il veut pour nous. Parce que ce passage est pour nous encourager à rester attaché au maître. Surtout dans le contexte, c'est juste des heures avant que tout le mal va surgir sur lui. Et ils veulent que ces gens qui vont être dispersés, déçus, balayés par le monde, qu'ils prennent courage et qu'ils restent attachés à lui. Exactement ce qu'il veut pour nous, que nous soyons attachés à lui. Quoi qu'il arrive, pour porter du fruit, pour honorer notre Dieu. Et donc il dit, déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il demeure sur le cep, de même vous non plus. Si vous ne demeurez en moi, moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, que moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et finalement, voilà la clé de la vie spirituelle, de la vie en Christ, de la vie nouvelle. C'est de rester attaché à lui comme une branche de la vigne. Ils portent du fruit naturellement s'ils sont attachés. Car le vigneron prend soin justement de la vigne, le Père. Il dit, vous êtes déjà émondés par la parole. Et la parole a cet effet sur nous. Notez bien aussi que pour ceux qui portent du fruit, c'est une chose normale d'être émondé. Et, comme il est dit en hébreu, parfois, quand on est corrigé par le Seigneur, ce sont des choses qui sont désagréables. J'imagine pour une plante, avoir une partie de sa branche enlevée, ça ne peut pas s'ils avaient une système nerveux comme nous avons, je pense que ça doit faire très mal aux plantes. Et parfois, le Seigneur nous fait traverser certaines choses pour nous qui portons du fruit déjà, pour que la qualité soit mieux. Et c'est ça qui peut être frustrant parfois, parce qu'on regarde notre vie et on dit, mais ça va bien, on a vu des choses. Oui, je regarde ma vie, oui, ok, je vois comment j'ai progressé dans l'amour, dans ma vie, ou comment j'avais la joie du Seigneur, ou la paix, ou le Seigneur a vraiment travaillé la patience dans ma vie. Et alors pourquoi ça m'arrive du coup? Parce qu'il veut améliorer la qualité du fruit. Finalement, pour que nous portions beaucoup de fruit. Et c'est ça ce qui lui intéresse. Parce que ça rend gloire à lui. Et c'est ça ce qu'il veut. Et finalement, je crois qu'au fond de nous-mêmes, c'est ce que nous voulons aussi. Si on pouvait seulement passer par ce procès d'être émondé. Or, le Seigneur, il fait toutes choses parfaitement. Il faut. Sans lui, on ne peut rien faire. Et voilà une bonne question. Est-ce que vous y croyez réellement? Ou est-ce qu'au fond de vous-même, vous avez toujours cette idée que, ah oui, j'ai besoin de Jésus, et je peux faire ceci, ou j'apporte ceci, ou peut-être aussi je peux faire quelque chose. Ah, mais c'est là le problème. Et c'est justement là où il nous émonde. Parce que toute espèce d'autosuffisance, ou croyance dans ce que nous pouvons apporter au Seigneur, ce sont ces choses-là qui doivent être un jour ou un autre émondées, enlevées, pour que nous portions du fruit de qualité. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Alors, est-ce que la personne était sauvée ou pas? J'en sais rien. Mais je sais qu'il est possible de tourner le dos sur Dieu et de l'abandonner. Et je sais bien, parce que je l'ai vu plein de fois, des gens qui, à toute semblance, avaient les apparences d'être en Christ, et un jour ou un autre, ils ont tourné le dos. Peut-être c'était une chose graduelle, oui, j'y crois fortement, que ce n'était pas arrivé comme ça. Et puis, ils ne marchent plus avec Christ. Ça, c'est pourquoi il y a tellement d'avertissements dans le Nouveau Testament. Ça, c'est pourquoi Jésus nous avertit même dans ce verset-là. Parce qu'il nous donne justement le choix entre nous suivre ou ne pas. Alors, il est possible aussi que ça parle de ce que nous lisons en 1 Corinthiens 3. Concernant ceux qui sont en Christ, mais que finalement, ils ne portent plus de fruits. Et souvent, ces gens-là, ils sont remplacés. Nous parlons de quelqu'un qui, ou peut-être un pasteur qui a fait un merveilleux ministère, ou quelqu'un qui a fait un ministère, ou qui était fort dans le Seigneur, mais au bout d'un moment, il arrête, et il arrête de porter du fruit. Et finalement, le Seigneur le remplace. Ou le péché qui était caché dans sa vie, est révélé devant le monde. Ces choses-là arrivent aussi. Il y a aussi le tribunal de Christ. Et en 1 Corinthiens 3, verset 12, nous disons, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre est bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Et si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ben, nous parlons des gens qui sont sauvés, qui finalement ont gaspillé tout ce que le Seigneur leur a donné. Encore, la solution est simple. Et c'est verset 7. Si vous demeurez en moi, c'est ça ce qu'il faut. Demeurer, vivre, résider. Ne quittez jamais Christ. Et que mes paroles demeurent en vous. Demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc la prière est plus efficace quand on demeure en lui, car ses paroles demeurent en nous. Et le Père, mon Père est glorifié en ceci, il dit, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Et oui, ça peut être aussi dans l'évangélisation, mais pour que l'évangélisation soit efficace, il faut le travail du Saint-Esprit aussi. Notez que ce que le Père veut, c'est que nous portions tous beaucoup du fruit. Regardons brièvement à cette liste du fruit de l'Esprit. En Galates chapitre 5, mais le fruit, verset 22, de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. C'est ça ce que le Saint-Esprit produit dans notre vie. C'est ça ce que va se passer naturellement dans notre vie, par l'œuvre de Dieu dans nos vies, en restant attachés. Alors, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Maintenant, il devient aussi plus spécifique, parlant de simplement être en lui et demeurer en lui. Maintenant, c'est plus spécifique, c'est demeurer dans mon amour. Et il nous donne comme exemple lui-même comment il a demeuré dans l'amour de son Père. Je vous ai parlé ainsi afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. C'est marrant qu'il dit ça juste avant la croix. Ah, mais c'est pour la joie de ce qu'il allait faire, de ce qu'il allait recevoir. Il a enduré la croix. Il y a la joie, la communion aussi dans toutes ces choses. Le plus qu'on demeure dans son amour. Il dit, voici verset 12, mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Et nous voyons des bénédictions maintenant par rapport à notre nouvelle demeure finalement, la demeure dans l'amour de Dieu. C'est un commandement et c'est une demeure. C'est là où nous vivons, c'est de ce point-là où nous agissons dans cette vie, c'est le point de départ, c'est le point final. Mais c'est un commandement. Et c'est un commandement pour notre bien, finalement. Mais si, quand même, nous obéissons, il nous appelle son ami. Et ça évoque l'idée d'Abraham, qui était appelé un ami de Dieu. Et c'est merveilleux. Trop souvent, nous rendons cette idée un peu trop légère. Comme si moi je suis l'ami de Dieu, comme si c'était moi qui avais commencé cette relation. Mais c'est tout l'inverse en fait. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, non, c'est moi qui vous ai choisi. Dieu est à l'origine de ces choses. Donc quant à la prédestination, c'est absolu. Oui, Dieu, il choisit des gens. Et Jésus, il nous le montre, il le dit très clairement. Oui, c'est vous que j'ai choisi. Et pourquoi est-ce qu'il les a choisis, les a lus? Pour être son ami, pour qu'ils portent du fruit et pour qu'ils aient une vie de prière efficace, pour qu'ils soient joyeux. Et donc, si nous prêchons la prédestination, ce n'est pas une chose négative. Oh, mais c'est tout ce qui est de plus bénéfique et de plein de grâce de Dieu. Et c'est un fait. Dieu dirige les affaires des hommes. Il choisit des gens avant la fondation du monde. C'est lui qui choisit. Et il fait ce qu'il veut par sa grande souveraineté. Et donc, nous pouvons voir par ceci que autant que la prédestination est vraie, autant nous avons la responsabilité et nous choisissons aussi. C'est à nous, finalement, d'obéir. Dimanche, nous avons parlé de John Wesley et de George Whitefield. Ce qui est intéressant, c'est que George Whitefield était un calviniste total, alors que Wesley était le contraire, était arménien dans sa théologie, total. Et les deux, pendant leur vie, avaient des disputes entre eux. Mais est-ce qu'on pourrait dire que George Whitefield était plus utilisé par Dieu que Wesley ou vice-versa? Et si Dieu les a utilisés parfaitement et également alors que leur doctrine était tout à fait contradictoire, ben peut-être il y avait un parmi eux qui avait tort, tout simplement. Ou bien est-ce qu'il est possible qu'ils avaient tous les deux raison, mais leur tort était d'exclure l'autre point de vue? Je crois que c'est ça la seule façon qu'on peut résoudre ces problèmes théologiques. Il est plus grand que mes capacités de raisonner ou de comprendre tous les détails de ces choses. Il est souverain. Pourtant, il veut que nous l'obéissons, tout simplement. Et quel encouragement de le faire. Le fruit qu'il désire, le fruit que nous désirons. Je ne sais pas pour vous, mais je ne connais personne qui veut une vie sans paix, sans patience, sans maîtrise de soi, sans amour. Nous voulons tous ces choses. Et avoir une vie de prière efficace, c'est merveilleux. Il nous donne les clés. Demeurez en son amour. Nous comprenons le commandement. C'est l'application qui est le plus dur. Verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce que ils ne connaissaient pas celui qui m'a envoyé. Donc parmi notre grand héritage, c'est peut-être la chose qu'on ne réclame pas trop souvent, mais qui nous vient quand même. La persécution fait partie de notre vie, et c'est justement la preuve d'authenticité. Le chrétien qui n'est jamais persécuté dans sa vie, qui n'est jamais insulté pour sa foi, que tout le monde pense qu'il est bien, qui n'offense personne pour la cause de l'Évangile, ben, on se pose des questions finalement. Est-ce que cette personne, est-ce qu'il a compris? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui manque? Voilà encore comment nous pouvons discerner un arbre par son fruit. Et c'est important parce que c'est toujours la tentation d'être acceptable parce que personne n'aime les railleries du monde. Mais notez bien que c'est ça qui a fait obstacle à Israël, trop souvent. Il voulait des idoles comme les autres nations. Il voulait un roi comme les autres nations. En fait, ils voulaient tous comme les autres nations qui sont devenus finalement comme les autres nations. Et c'est pour ça que Dieu les a déportés. Et c'est la grande faiblesse de nous quand nous entretenons ces mêmes désirs au fond de notre cœur. Surtout quand Dieu dit « Sortez, soyez saints comme je suis saint. » Et justement, il est plus normal que les gens pensent que nous sommes un peu bizarres, justement. Que nous ne sommes pas toujours invités à tout leur fête ou leur dîner et tout. Comme il dit en Pierre, ils pensent que c'est bizarre que nous ne pratiquons pas leur débauche avec eux. Parce que tout le monde le fait. Mais si nous sommes ce que nous devons l'être, même par notre présence, ça va gêner ces choses. Ça va être comme un frein, finalement, à tous leurs désirs, parce que nous venons comme le sel ou la lumière. Et s'ils préfèrent les ténèbres, c'est gênant d'avoir une petite lumière. Et c'est ça ce que nous faisons. Mais c'est voulu par le Seigneur pour attirer ceux qui sont à sa recherche, à lui. Pour avertir ceux qui veulent vivre dans les ténèbres qu'un jour de jugement viendra et que Dieu est réel. Parce qu'il dit, verset 22, « Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Et si je n'avais pas fait parmi eux les œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils les ont vues et ils ont haï et moi et mon Père. Mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. » Là, il parle de ces chefs religieux qui ont pris position contre lui. Ils l'ont haï. Parce que, avant que Christ soit venu, tout était bien. Ils étaient cachés dans le système. Ils peuvent apparaître saints devant tout le monde. Mais quand Christ, la lumière, est venu et qui a brillé de façon que toutes leurs mauvaises œuvres soient dévoilées devant tout le monde et la réalité de leur cœur soit mise au grand jour, par sa pureté, par sa justice, par son enseignement, par ses œuvres, là, leur péché était révélé à eux-mêmes, ils l'ont vu en face. Et au lieu de se repentir, qui serait l'idée normale quand Dieu révèle ce qui est au fond de notre cœur, eux, ils se sont endurcis contre lui. Finalement, ils ont été retranchés, enfermés, un peu comme on a vu des versets 2. Et ça explique aussi pourquoi il y aura toujours des gens qui ont de la haine pour Jésus et pour le Père. C'est toujours cette idée de lumière et de ténèbres. Mais on ne veut pas cacher la lumière pour autant. Tout au contraire, soyons ce que, qui nous sommes. C'est ça ce qui est... De toute façon, c'est ce qui nous sommes. Et au lieu d'être une pauvre imitation du monde, vaut mieux être qui nous sommes et de briller d'autant plus. Et ainsi, nous accomplissons la volonté de Dieu. Alors, quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Et, donc on termine avec ça, le Saint-Esprit nous aide dans l'évangélisation. Il est, bah peut-être, il est le point intégral. Encore sans lui, on ne peut rien faire. Si nous faisons de l'évangélisation de n'importe quelle façon, donner un tract, si on ne prie pas, si on n'essaie pas d'être rempli du Saint-Esprit, ben c'est presque comme jeter le tract dans la poubelle. Mais si nous cherchons à être remplis du Saint-Esprit, même en donnant ce tract, nous pouvons avoir l'assurance que le tract est donné dans les bonnes mains au moins. Et puis on parle, s'il nous donne l'occasion de parler, là encore il y a quelque chose qui puisse se passer qui est bien plus fort que nous-mêmes. Et si nous sommes avec quelqu'un qui partage sa foi, même si on ne connaît pas la personne, on peut prier et joindre justement cette œuvre dans l'esprit. Parce que tous les arguments du monde ne font rien. Mais c'est l'esprit derrière, c'est l'esprit qui peut tout. Et la semaine prochaine, nous allons voir un peu plus de détails comment l'Esprit Saint, il fait l'œuvre de l'évangéliste, ou comment justement y convaincre les gens de leur péché et qui ouvre la porte. Bref, nous avons besoin de lui. C'est la première mention. Jésus, il va développer ce point plus tôt dans chapitre 16. Et nous allons terminer là ce soir. Prions.